lirons dans Matthieu 28. Matthieu 28. Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendant du ciel, vint et roula la pierre et s'assit sur elle. Et son aspect était comme un éclair, son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu'ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. Et l'ange répondant dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur gisait. Et allez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée. Là, vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Verset 16, et les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et l'ayant vu, ils lui rendirent hommage. Mais quelques-uns doutaient. Dans les Actes, premier chapitre, acte 1, j'ai composé le premier traité, c'est-à-dire l'Évangile selon Luc, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné par l'Esprit Saint des ordres aux apôtres qu'il avait choisis, à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours. Et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Verset 10, et comme il regardait fixement vers le ciel tandis qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs se tinrent là à côté d'eux, qui aussi dirent, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Un Corinthiens 15. Verset 3. Je vous ai communiqué, dit l'apôtre, avant toute chose, ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois. dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. Verset 20, maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Prémisse de ceux qui sont endormis. Verset 52-51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, c'est-à-dire les vivants, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Vers fin du verset 54, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. 1 Thessaloniciens 4. Verset 16, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Encore un verset en rapport avec le cantique. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, nos désirs te cherchent par la foi. Nous avons dit, viens Seigneur, enlevez ton Église. Verset 16 du chapitre 22, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent bien. La réponse au verset 20, celui qui rend témoignage de ces choses dit: oui, je viens bientôt, vitement, promptement. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est bien un désir qui remplit nos cœurs, qui devrait les remplir, voir le Seigneur, être avec lui. Il est difficile dans ce vase de terre de le réaliser vraiment pleinement. Il y a tellement de liens qui nous rattachent à la terre. Mais au fond, ce qui sera notre part éternelle, c'est d'être avec lui. C'est de le voir de près. Bon, ici-bas, nous voyons de loin. Nous connaissons en partie, dit Paul. Cela rappelle cette parole à propos de la manne qui n'est pas donnée sans doute par l'esprit sans intention. Or, l'homère est la dixième partie de l'épha. Nous ne connaissons qu'en partie. Mais bientôt, nous allons connaître en perfection parce que nous serons dans des corps transformés. Un mot sur l'évangile de Matthieu. Rapidement, sa structure est très simple. Il se divise en quatre parties. Chapitre 1 et 2, chapitre 3 à 20, chapitre 21 à 25, et enfin, la mort et la résurrection du Seigneur, 26 à 28. Le lecteur attentif des Écritures ne manque pas de constater que cet évangile s'adresse spécialement aux Juifs. Que Matthieu, qui était un Juif, a été l'instrument choisi par l'Esprit-Saint pour donner à ce peuple qui était fort éloigné de Dieu quant à son entendement les preuves internes, irréfutables de la venue sur la terre de leur Messie. C'est dans cet évangile qu'il y a le plus grand nombre de citations de l'Ancien Testament. Alors que dans Marc, nous n'en avons que deux. La troisième étant contestée d'après les meilleures autorités. C'est dans cet évangile aussi que nous voyons la généalogie du Seigneur remontant aux souches des promesses, c'est-à-dire à David et Abraham. Tandis que dans Luc, elle remonte jusqu'à Dieu par Adam. C'est dans cet évangile également que la paternité vient par Joseph, la naissance du Seigneur vient par Joseph, et c'est la seule valable pour les Juifs. En Luc, elle vient par Marie. Il y a trois citations de l'Ancien Testament qui sont comme trois grands jalons dans cet évangile. À la fin du chapitre 2, il y a la citation de Michée 5, c'est la présentation solennelle du Messie à son peuple. Michée 5, la Vierge, pardon, Ésaïe 7, pas Michée, Ésaïe 7, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, on appellera son nom Emmanuel, la fin du chapitre 1er. Emmanuel, Dieu avec nous, voilà celui qui est là, c'est Emmanuel. Nous savons qu'hélas, ils ne l'ont pas reconnu. Dans Jean, le rejet du Seigneur est constaté immédiatement. Il vient chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Et nous sommes sur des sommets beaucoup plus élevés dans Jean. C'est la parole, le verbe qui devient chair, tabernacle au milieu de nous. Donc les Juifs auraient dû, d'après les Écritures, il y a là 14 générations, nous savons qu'on a ôté, d'après notre frère Kelly, les anneaux surnuméraires, il manque des noms. Mais il y a 14 générations jusqu'à Christ. On peut le retrouver dans ce remarquable ouvrage de notre frère Introduction à l'étude des évangiles. Nous le recommandons à nos jeunes amis ici présents. Il y a là un survol remarquable des quatre évangiles par notre cher frère Kelly. Je répète, introduction à l'étude des évangiles. Nous avons ensuite un deuxième passage au chapitre 4, c'est la citation d'Ésaïe 9. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, chemin de la mer au-delà du Jourdain. Galilée des nations, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Dès lors, Jésus commença à prêcher. Alors, son ministère public va commencer. La citation d'Ésaïe 9 s'accomplit. Celui qui est le salut de Dieu va parler de la part de Dieu, apportant la grâce et la vérité. Nous avons alors au chapitre 20, chapitre 21, pardon, verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ici, nous touchons au terme du ministère du Seigneur sur la terre. C'est donc la prophétie de Zacharie 9 qui s'accomplit. Il vient débonnaire apportant le salut. Ce serait intéressant de comparer à ce que dit le passage de Zacharie. Il est évident que le jugement n'est pas du tout devant le Seigneur, mais la grâce, le salut. Le jugement viendra, hélas. Il viendra plus tard. Et pour le moment, il apporte le salut, il est débonnaire. Soulignons aussi que dans cet évangile, il y a, au début du ministère du Seigneur, trois chapitres qui forment un tout et qu'on appelle le sermon sur la montagne. 5, 6, 7. Nous ne les trouvons que dans Matthieu, à la suite. Ils constituent un tout qu'on a appelé la charte du royaume. Dans Luc, on retrouve ce sermon sur la montagne, mais adapté aux circonstances dans lesquelles le Seigneur se trouve. Pour citer un exemple, au chapitre 11, les disciples disent « Enseigne-nous à prier ». Et alors là, le Seigneur parle de la prière dominicale. Et dans Matthieu, ces trois chapitres sont groupés. Sujet très instructif, entre autres, parce que, évidemment, c'est la charte du royaume, et dans cet évangile, le Seigneur a en vue le résidu futur. Mais il y a des enseignements moraux qui nous concernent, c'est évident, comme dans toute écriture. Il y a aussi le chapitre 13, ce chapitre qui nous présente en sept paraboles le royaume des cieux. Il y a là un aspect prophétique, évidemment. Trois paraboles nous montrant l'aspect extérieur, les trois premières, et les trois dernières, l'aspect intérieur, le trésor, la perle, et le filet rempli de poissons. Et puis les semailles qui précèdent cette parabole. Sujet aussi très intéressant qui n'est que dans Matthieu. Nous avons aussi au chapitre 16, et ce n'est que dans Matthieu, la mention de l'assemblée. Le Seigneur parle de cette assemblée qu'il va bâtir sur lui-même le roc. et sur la confession que fait Pierre, conduit par l'Esprit de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tous ceux qui ont lu Matthieu, en effet, ont été surpris de voir que cette mention soit faite là, alors que dans Jean, nous sommes plutôt sur un terrain céleste. Et nous pourrions dire que nous sommes sur le terrain de l'Assemblée dans Jean. Marie de Béthanie est la semence de l'Église. Elle adore le Fils de Dieu. Mais dans Matthieu, nous sommes sur le terrain juif. Eh bien, c'est là que l'Esprit de Dieu nous présente cette pensée, cette vérité, ce mystère, je dirais, extraordinaire, l'Assemblée, mystère caché en Dieu, avant les temps des siècles. Paul dit à la fin de Romains, au sujet duquel le silence a été gardé. Alors nous arrivons à la doctrine de Paul qui nous révèle l'Assemblée, l'espérance de l'Église, la venue du Seigneur. C'est à Paul seulement que ces vérités ont été enseignées. Il y aurait bien d'autres remarques à faire dans, disons, les jalons principaux que nous avons dans cet évangile, notamment les chapitres 24, qui sont dans cet évangile très détaillés concernant la prophétie et l'accomplissement des choses qui doivent arriver après l'enlèvement de l'Église. Il est même fait allusion à la bête, la deuxième bête d'Apocalypse 13, au verset 15 du chapitre 24, l'abomination de la désolation. On peut dire que le premier paragraphe contient les sentiments du résidu juif qui nous sont présentés dans les psaumes 1 à 41. Et puis alors on arrive à la dernière demi-semaine de Daniel, à partir du verset 15, au moment où il fera cesser le sacrifice et l'offrande, mais cela nous conduirait alors dans un sujet prophétique dont nous avons été entretenus ces dernières soirées, et qui est fort instructif bien sûr. Mais ce n'est que dans Matthieu que nous avons tous ces détails. Dans Luc, c'est beaucoup plus succinct. Et par contre, dans Luc, il est fait allusion à un événement d'une portée immédiate, la destruction en l'an 70 de Jérusalem. Quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, c'est dit dans Luc. Alors, levez vos yeux en haut, votre rédemption approche. Et pour arriver à notre chapitre, nous avons donc aussi le royaume des cieux avec les vierges, avec les talents, la parabole des talents au chapitre 25, la responsabilité des serviteurs en l'absence du maître. Et on a souvent médité ces deux paraboles très instructives. Mais nous sommes quand même spécifiquement sur un terrain juif. Je ne sais pas si l'application de la parabole des vierges est bien applicable tout à fait à l'Église. Pas tout à fait. Il y a bien sûr une pensée, c'est celle de l'attente de l'époux. Mais nous sommes sur le terrain spécifiquement juif dans cet évangile. Et la preuve d'ailleurs nous en est donnée dans le chapitre où nous avons lu ces versets, c'est que le Seigneur permet aux femmes galiléennes de le toucher dans sa présence matérielle. Elles lui saisirent les pieds. Dans Jean, le Seigneur dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. C'est un autre terrain. C'est le Fils de Dieu, celui qui a aimé l'Assemblée, qui s'est livré pour elle, qui est caché dans le ciel maintenant, objet de foi. Ici, il renoue ses relations avec ce résidu, passant par-dessus la période de l'Église. Et c'est pourquoi il est dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. Voilà comment se termine Matthieu. Il laisse le Seigneur avec ce résidu qui plus tard le recevra comme le Messie. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Voyez, ce n'est pas du tout le côté céleste ici. Je suis avec vous tous les jours. La période de l'Église, qui est une parenthèse, est complètement passée sous silence. Mais qu'est-ce que nous avons vu dans ce chapitre, ce que je voudrais et ressortir en rapport avec le cantique et la prière, c'est que d'abord, un premier fait fondamental, le Seigneur est ressuscité. Et il y a dans cet évangile des expressions qu'il faut souligner, qui sont tout à fait remarquables. Le tremblement de terre, il n'est pas mentionné dans tous les évangiles. Le tremblement de terre, l'ange qui vient rouler la pierre et s'asseoir sur elle, et son aspect était comme un éclair, son vêtement blanc comme la neige. La frayeur des gardiens n'est pas non plus donnée dans d'autres évangiles, n'est pas indiquée. Elle est indiquée ici. Et l'ange informant ces femmes qui aimaient le Seigneur, qui l'avaient suivi, pour vous, c'est ce pour vous qui est important, pour vous qu'il aimait. Pour nous, chers croyants, chers achetés du Seigneur, pas de crainte, plus de frayeur, non, plus de crainte. Dieu nous a donné son pardon. Nous le chantons bien dans un cantique. Pour nous, élus, nation sainte, plus de condamnation. Pour vous, n'ayez point de peur. Chers auditeurs, chers jeunes gens qui êtes ici, est-ce que, pour vous, est-ce que ces paroles, vous pouvez vous les approprier ? Si le Seigneur venait tout à l'heure, est-ce que vous quitteriez ces bancs avec nous ? Pour vous. Il y a les autres, parole en Paul expression, ne dormons pas comme les autres, les Thessaloniciens. Il y a ceux qui l'attendent, il y a ceux qui seront laissés, quoique professant le christianisme, et c'est solennel. Car à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup redemandé. Enfants de nos familles, nous pleurons souvent à genoux à votre sujet. Il y a des douleurs dans toutes les familles chrétiennes. Il y a des fils prodigues. Ô fils perdu, reviens à la maison. C'est là quel bonheur. Peut-être faut-il que vous goûtiez un peu ce que c'est que le monde. Et puis vous direz, ah, dans la maison de mon père, il y a du pain. Je me lèverai. Et le père, on a représenté, un artiste chrétien a représenté des tableaux, toutes les paraboles y sont. J'ai vu celle du fils prodigue et d'autres aussi. On voit le Père sur la tour, il met sa main et ses regards sont tendus vers l'horizon. Il va revenir. Il va peut-être revenir. Et qu'est-ce qu'il fait le Père quand il revient ? Il avait bien préparé un petit discours, le prodigue. Il le prend dans ses bras. Apportez dehors la plus belle robe. Voilà l'amour. L'amour divin qui cherche comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit. L'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Chers jeunes gens, permettez-nous en toute affection à eux, ceux qui sont plus âgés, pour vous, n'ayez point de peur. Est-ce que vous pouvez vous placer dans ce pour vous. Alors, ces femmes, il leur dit, vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici. Le tombeau est vide. Et un frère, un cher devancier, a écrit à ce sujet, il y a une voix qui sort de la tombe. Gloire, gloire au ressuscité. Je crois que c'est Bellet qui fait ça. Il y a une voix qui proclame qu'il est ressuscité, il est là-haut, assis à la droite de Dieu. Assieds-toi à ma droite. Place de l'honneur et de la puissance. Il est ressuscité. Mais alors, ce n'est pas fini. Venez. Ah, venez, voyez le lieu. Le lieu où le Seigneur gisait. Comme cela touche nos cœurs. Chers rachetés du Seigneur, ce matin, le Seigneur nous a dit, voilà le lieu. J'ai été là. Ô Christ, ta charité profonde touche et pénètre notre cœur. Il a été enseveli. Nous avons cette expression dans 1 Corinthiens 15. Nous y arrivons maintenant. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a été enseveli, il a disparu complètement. Élevé sur la croix, enseveli. Il a goûté la mort pour tout. Et dans cette parole prophétique, au psaume 16e, il peut dire, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ah, tu m'as répondu, entre les cornes des buffles, il a goûté la mort, mais il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé dans la résurrection. Non, il n'était pas possible que le glaive n'entre pas dans son âme. Ce matin, un de nos frères a dit, rappelez cela, Gethsémané, s'il était possible, Père. Oui. S'il était possible. La mort et l'abandon passèrent sur ton âme. Du jugement divin, tu reçus tous les coups. Le Gethsémané, c'est une scène devant laquelle on pleure souvent. Quelle angoisse. Mais quelle perfection. Il n'y a pas un lieu où les perfections de Christ ont brillé comme là, sinon la croix. Sinon la croix. À genoux, un ange le fortifiant, mais l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quelle perfection. Tu m'as creusé des oreilles, tu m'as formé un corps. Bien-aimé, c'est quelque chose qui remplit nos cœurs de joie, mais aussi d'un sentiment de reconnaissance, d'adoration profonde. Les trois disciples dormaient. Est-ce que nous ne dormons pas, chers amis, quelquefois en présence des souffrances? Je me pose la question dans le culte. Est-ce que nos cœurs ne devraient pas brûler quand il nous dit, voyez, voyez mes mains et mes pieds. C'est moi-même. Ah, Thomas n'était pas le premier dimanche, mais le deuxième. Le Seigneur a dû lui dire, avance ici ta main, Thomas, mets-la dans mon côté. Que s'est-il passé dans le cœur de Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. C'est ce que dira le résidu plus tard en le voyant. Mais souvent nous sommes comme Thomas. Mais si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. À qu'il veuille rafraîchir nos affections, il va venir Et c'est sûrement très proche, cher acheté du Seigneur. Très près, nous sommes très près de ce moment. Nous le ressentons. Nous le ressentons chacun pour soi. Les ombres s'allongent, la nuit est fort avancée. L'état du monde en général, l'état de la chrétienté, l'état de l'assemblée, c'est ce qui est plus grave. Qu'en est-il de ce qui a été suscité il y a 150 ans? Où ses serviteurs, on a pu dire d'eux qu'ils avaient rejoint, non pas en puissance, mais en qualité, le témoignage apostolique. Qu'en est-il? Dieu veuille que nos cœurs soient rafraîchis pour l'attendre, réveillés pour l'attendre. Alors dans ce court verset d'un Corinthiens 15, nous avons trois grandes vérités unies les unes aux autres. Il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il a été ressuscité, et tout cela selon les Écritures. Ah, les Écritures rendent témoignage de moi. Fonder les Écritures. Puis il y a eu des témoins oculaires. Et alors c'est dans ce long chapitre de 58 versets que l'apôtre Paul va démolir les arguments des faux docteurs à Corinthe. À Corinthe, il y avait deux mots. Il y avait un mal moral au chapitre 5, il y avait l'inceste. Il y avait un mal doctrinal au chapitre 15. Voilà où était tombée l'assemblée. Très peu de temps après le commencement d'Actes, on niait la résurrection des morts. Et Paul montre dans ce chapitre avec une force extraordinaire que Christ est bien ressuscité. Il y a des témoins oculaires, les siens l'ont vu. Plus de 500 frères à la fois. Et puis cette argumentation... Si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, nous sommes encore dans nos péchés, la foi est vaine. Verset 17. Tous ceux qui sont endormis ont péri. Alors il y a ce mais au verset 20, mais maintenant. Ah, c'est une affirmation sans réplique. Christ a été ressuscité. Et alors là, il est les prémices. Nous avançons. La gerbe de Lévitique 23, elle était tournoyée le lendemain du sabbat. C'est Christ en figure. Une gerbe présentée devant l'Éternel. Christ est ressuscité. Et toute la moisson va suivre. Et toute la moisson est de la même nature que la gerbe. Ceux qui sont du Christ à sa venue. Nous l'avons ici. Évidemment, dans ce passage, il ne faut pas se tromper, parce que dans l'Adam, tous meurent, dans le Christ, tous seront rendus vivants. Cela ne veut pas dire que les incrédules seront rendus vivants, bien entendu. Non. Ce sont ceux qui sont du Christ qui seront ressuscités, qui seront changés. Christ, c'est les prémices. Mais tous seront rendus vivants. Cela peut aussi avoir cette portée, cette interprétation, à savoir que quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, et les incrédules comparaîtront devant Dieu. Devant le grand trône blanc, ce ne sont pas des esprits, mais des corps. Il y a une résurrection de vie, il y a une résurrection de jugement. En Jean 5, elles sont aussi intimement liées, mais nous savons par ailleurs qu'elles sont séparées par un espace d'au moins 1000 ans. Avant les 1000 ans, les martyrs aussi, Apocalypse 20, ceux de la période apocalyptique ressusciteront, ils ont part à la première résurrection. Mais puis après viendra la résurrection des morts incrédules, et ils comparaîtront pour être jugés. Mais combien c'est solennel, dans la dent tous meurent. Personne n'échappe à cela. Dans la dent tous meurent. Chers amis, si vous n'avez pas de mourir dans ce péché, mais c'est quitter la terre sans avoir la paix avec Dieu, et c'est entrer dans l'éternité en attendant le jugement éternel. Parce qu'attention, les tourments commencent lorsque l'esprit est détaché du corps. Luc 16 nous présente ce tableau, mais ce n'est pas encore le jugement éternel. Ce n'est pas encore. C'est un commencement de douleur. Mais il reste cette séparation, a dit JND, de l'homme avec Dieu. Cette séparation éternelle. C'est cela la seconde mort. Alors il y a des rangs. Christ, les prémices. Ensuite ceux qui sont de lui à sa venue, tous les siens. Et alors nous avons là, au verset 51, la, je dirais, comment s'accomplira cet événement, le détail de cette résurrection des saints, de cet enlèvement des vivants. Paul dit, nous, je vous dis un mystère, mais en fait, tous les mystères dans le Nouveau Testament sont des mystères révélés. Ils ne sont pas compris par l'incrédule, mais ils sont compris par le croyant qui a l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus un mystère, quoique, encore, si nous lisons attentivement les versets 35 à 50 du chapitre 15, nous n'expliquons pas tout. L'apôtre dit, répond à une objection, comment ressuscitent les morts? Parce que, comme l'a écrit quelqu'un, sauf erreur en 1901, dans une étude très intéressante sur cette épître, il dit ceci, l'esprit curieux de l'homme veut toujours connaître tout ce qu'il ne peut pas connaître. L'homme est curieux par nature. Et on se demande ce qu'était le corps du Seigneur ressuscité. Sans moyen de locomotion, il entre dans la chambre haute et se trouve avec les siens. Et pourtant, il a mangé avec eux un rayon de miel. Et il a dit à Thomas, mets ta main dans mon côté. C'était bien un corps. Ah, il y a des choses que nous ne pouvons pas sonder, mais que nous devons croire. La foi reçoit ce que Dieu dit. N'allons pas, nous ne nous aventurons pas sur ces terrains-là. Nous aurons le même corps que Christ. Et Philippiens 3, la conformité du corps de sa gloire. De même, le Seigneur s'est déplacé, on ne sait pas comment, il s'est trouvé avec les deux disciples qui s'en allaient à Emmaüs. Et il était dans un corps ressuscité. Ah, ce sont les merveilles de Dieu. Et ces merveilles-là, eh bien, il faut les recevoir et adorer. Alors, l'apôtre parle des semences, là, et il me semble avoir lu quelque chose de dans ce messager-là, en 1901, l'auteur parle d'une salade et de la graine. Alors il dit, voilà, une graine de salade. Et puis après, on a la salade paumée à côté. Mais il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Et pourtant, c'est la même semence, c'est la graine qui est devenue une salade. Le corps du croyant est une semence, cela n'est pas dit de l'incrédule, jamais. Le corps du croyant est une semence, et c'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, le corps de nos bien-aimés qui est dans la terre, eh bien, je ne dis pas qu'il faille, loin de moi la pensée qu'il faille porter un honneur particulier, enfin une révération spéciale. Mais il y a la caverne de Macpéla dans l'Écriture. Vous savez, les patriarches. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a un cas. Les hommes pieux ensevelirent Étienne. Ils prirent soin de son corps. Ah oui, le corps du croyant, ce n'est pas le corps d'un incrédule, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un dira, peu importe que je sois enseveli n'importe où, le Seigneur me trouvera, c'est vrai, c'est juste, mais quand même. On sait que notre cher vénéré conducteur JND a fait écrire inconnu, mais bien connu. Inconnu, mais bien connu. Mais, et le corps du Seigneur. Ce sont des hommes riches qui en ont pris soin. Dans Matthieu, c'est un homme riche. Dans Marc, c'est un conseiller honorable. Dans Luc, c'est un homme de bien. Joseph d'Arimathée et Nicodème. Je ne dis pas cela pour qu'on aille dans les cimetières, n'est-ce pas, bien sûr, non, non. Nous savons où est l'esprit, il est auprès du Seigneur. Mais néanmoins, le corps est une semence. Et nous avons un respect à avoir à cet égard. Corinthiens 15, donc, c'est le côté de la puissance. Parce qu'il y a ce « il faut ». Il faut. Il faut. Il faut qu'il règne un peu plus haut, un peu plus avant. C'est le côté de la puissance, c'est le côté de Dieu. Parce que lui est ressuscité, parce que lui vit, nous aussi nous vivrons. Le croyant s'approprie cette espérance, cette vie. Sa vie et notre vie, et pour l'éternité. Alors un mot aussi, parce que je disais à un jeune frère tout à l'heure sur le parking à midi, on trouve dans les visites des personnes qui vous disent, oh bien, des personnes âgées, eh bien voilà, il faut partir, c'est, puis nous partons tous les uns après les autres. Ah, c'est une chose qui m'afflige. Mais bien sûr, la mort est sur le chemin. Mais c'est le Seigneur que nous attendons, c'est sa venue. L'espérance de l'Église, mais c'est sa venue sur la nuit. Comme nous l'avons chanté au Cantique 54. Ce n'est pas la mort que nous attendons, c'est la venue du Seigneur pour chercher les siens. Combien c'est glorieux. Ah, ce sera un moment, comme disait un frère, quand, je ne sais pas moi, les uns seront au bureau, les autres seront à l'atelier, d'autres seront sur leur lit malade, d'autres au volant d'une voiture. Je prends un exemple tout à fait terre à terre. Le Christ fait entendre, il ne faut pas nous mettre en souci pour ce qui arrivera. Nous serons enlevés. Comme le dit le docteur Rossi dans cette poésie, comme une goutte d'eau qui retourne au soleil. Voilà, bien-aimés, ce qui est devant nous. En un instant, en un clin d'œil, il paraît qu'on ne peut pas mesurer la vitesse d'un clin d'œil. Alors la mort sera engloutie. Ici, c'est remarquable, dans Isaïe, il est dit « elle sera ». Elle sera engloutie en victoire. Si nous relisons le verset dans Osée, non, dans Isaïe 25. La mort a été. Et dans Isaïe 25, il est dit, je crois, elle sera. Et on est un peu surpris qu'ils se soient dit au passé ici. Parce qu'en fait, c'est à venir encore. Quand la mort sera-t-elle engloutie en victoire? Mais quand les corps des saints ressusciteront, sortiront des sépulcres, et quand nous les vivants, nous serons changés. Ici, l'apôtre parle au passé, parce qu'il considère la chose comme étant accomplie. Il y a trois passages concernant la mort. Elle a été annulée. Il a annulé la mort, 2 Timothée 1. Elle sera, je parle au futur, elle sera engloutie à sa venue. Elle sera abolie. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. En Corinthiens 15. Et dans l'Apocalypse, elle est jetée dans les temps de feu. La mort et le Hadès. Ah, cette mort qui fait verser tant de larmes, qui brise tant de liens, si doux, si cher. Chers frères et sœurs, elle nous fait couler les larmes. Un frère a dit pourtant qu'il aimerait bien connaître la résurrection d'entre les morts. Ah si le Seigneur ne venait pas ce soir, disait-il sur son lit de mort, je connaîtrais la résurrection d'entre les morts. Et ce sera quelque chose de glorieux cela aussi. Ils laisseront tous les autres morts dans les sépulcres. Et ceux-là sortiront plus tard pour être jugés, 1000 ans plus tard, au moins. Il y a quelqu'un qui a donné une pensée là, mais je ne la donnerai pas parce que je ne sais pas si elle est très juste. Se basant sur Jean 20, il y a en effet quelque chose de particulier lorsqu'il est dit que Jean arrive le premier, je crois, au sépulcre. Ils couraient tous les deux avec Pierre. Et Simon-Pierre n'entra pas. Les gens étaient arrivés plus vite que lui. Il entra. Et il vit. Et crut. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Je laisse la question sans donner la réponse. L'interprétation que j'ai entendue ne me paraît pas satisfaisante. Nous arrivons à 1 Thessaloniciens 4, alors c'est le côté des affections. Et nous terminerons sur cette pensée, le côté des affections. Ce n'est plus comme en 1 Corinthiens 15. Ici, il y a quelque chose de plus doux. Les Thessaloniciens étaient troublés parce que ils étaient jeunes, ces croyants, et sans doute certains, plusieurs, s'étaient endormis. Et ceux qui restaient étaient troublés en disant, mais enfin, ils vont perdre quelque chose. Alors l'apôtre leur écrit pour les rassurer, non. Soyez sans inquiétude, nous ne devancerons aucunement ceux qui sont endormis. Voyez, ils ont le pas sur nous. Tous ceux qui sont dans la tombe, croyants, ont le pas sur nous. Ils entendent les premiers la voix, et quelle voix, pour qu'elle pénètre dans les sépulcres. Ceux qui dorment de leur poussière entendront sa voix comme nous. Quelle voix puissante! Ici, il y a plus qu'en 1 Corinthiens 15, il y a le cri de commandement, il y a la voix d'archange, la trompette de Dieu. On a essayé d'expliquer ces différences. Bon, nous retiendrons que le cri de commandement, et ce qui différencie 1 Thessaloniciens 4 de 1 Corinthiens 15, c'est le fait que nous trouvons les consolations. Elles n'y sont pas dans 1 Corinthiens 15. Consolez-vous donc l'un et l'autre par ces paroles. Et un de nos chers devanciers a dit que dans ces mots, dans ces 5 mots, il y a toutes les bénédictions du ciel. Nous voulons dire, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le docteur Rossier. Toutes les bénédictions du ciel sont là. notre présence avec lui. Le ciel, mais c'est pas la gloire du ciel qui nous intéressera, mais c'est la personne qu'il remplit. C'est lui-même. C'est lui que nous verrons face à face. Voir de près tes traits adorables et être enfin rendu semblable. Ah, oui. Devant le trône du Père où siège la majesté, notre œil, Seigneur, considère ta ravissante beauté. Il faudrait que déjà sur la terre, nous en jouissions plus, davantage. Et pour cela, il faut être avec lui tous les jours. Être avec lui à ses pieds, dans la tristesse, trouvant pour toutes nos douleurs sa sympathie et sa tendresse. Sa bonté. Imitez Marie, dans le silence qui s'oublie, le laisser parler à nos âmes. On a dit, et c'est vrai, quand nous lisons la parole, le Seigneur nous parle. Quand nous prions, nous parlons au Seigneur. Et les deux choses sont utiles. Nécessaire, indispensable. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est agréable. Il aime entendre notre voix, elle est si faible. Mais lui-même nous parle quand nous lisons sa parole, nous écoutons sa voix. Ézéchiel entendait la voix qui lui parlait, disons, ce livre qui est remarquable, le premier chapitre notamment, et il entend, il est nourri. Très intéressant, cet homme de Dieu. Mais il entend la voix. Oh, Dieu lui a fait voir de grandes choses, mais il y a aussi un autre serviteur qui était avec lui, captif, c'est Daniel. Il est dit, comme l'aspect d'un homme me toucha. Et me dit, ne crains pas, homme bien-aimé, sois fort. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire, chers amis. Si nous désirons sa présence, enfin dans l'Apocalypse, nous avons ces passages bien connus. On a fait remarquer que ce livre commence par, alors que c'est un livre de jugement, l'amour de celui qui nous aime, qui nous a lavé nos péchés dans son sang. L'apôtre éclate en louange. Il a beaucoup de choses à nous communiquer de la part de Dieu, et pas des choses solennelles. Mais il s'arrête et il nous le présente comme celui qui nous aime. Et puis, à la fin du livre, le Seigneur se présente avec ce nom si doux, ce nom qu'il a reçu comme homme, ici-bas. Tu appelleras son nom Jésus. Moi, Jésus, c'est tout à fait remarquable. Ce n'est pas Seigneur ici, mais c'est Jésus, c'est celui qui nous aime. Celui dont le nom est un parfum répandu. J'ai envoyé mon ange, et alors il se présente comme la racine, celui qui est avant, la postérité, celui qui est descendu, selon la chair de la semence de David. Il se présente comme l'étoile brillante du matin. Un cher frère faisait remarquer ici sur le plateau, il est maintenant auprès du Seigneur, il n'y a pas longtemps, faisait remarquer que l'Ancien Testament se termine sur le soleil de justice, Malachie 4, et le Nouveau se termine sur l'étoile du matin. Parce que nous allons partir avant que le soleil de justice n'éclaire la terre de ses rayons bienfaisants et que le temps du rétablissement de toutes choses soit arrivé. L'Église va s'en aller avant. Pour nous, c'est l'étoile. Elle paraît avant le jour. Il faut veiller pour la voir dans la nuit. Elle brille de tout son éclat. Pour nous, c'est Christ. Nous avons connu un cher frère qui, tous les soirs, quand le temps était clair, avant de se coucher, me disait « Je regarde l'étoile ». Il attendait le Seigneur. Il n'attendait pas la mort. Il est parti, oui. Le Seigneur n'est pas venu, il est parti. Son esprit est dans le repos, mais il regardait cette étoile tous les soirs. Il la cherchait, il y a des nuits, on ne peut pas la voir. Mais ses pensées étaient orientées vers cette étoile. Ô divine étoile, que dans notre cœur, nulle ombre ne voile ta sainte splendeur. Il y a un appel là, chers frères et sœurs, chers jeunes gens, chers amis qui ne seraient pas au Seigneur, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Elle coule de la source qui a été ouverte à la croix, pour le péché et pour l'impureté. Les eaux de la grâce coulent comme un fleuve, il n'y a qu'à prendre, il n'y a qu'à se pencher, mais encore faut-il la prendre. Approchez-vous, venez à moi, dit le Seigneur, je vous donnerai du repos, que celui qui veut, il faut vouloir. La responsabilité de l'homme demeure. La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme sont deux pensées qui ne se veulent pas s'amalgamer. Élu en lui avant la fondation du monde, c'est un secret de famille. Mais quant à tous ceux qui n'ont pas cru, qu'est-ce qu'il leur est dit? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Qui croit au Fils à la vie? Que celui qui veut prenne. Eh bien, c'est le souhait de nos cœurs, en terminant, que si quelqu'un ici a soif, est-ce que ce monde vous a rafraîchi? Est-ce que vous y avez trouvé quelque chose de durable? Pensez à la Samaritaine, mais à la source qui coule de la croix, il y a des eaux en abondance. Et alors, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. « Viens ». Et le Seigneur de dire « Je viens bientôt ». Ah, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de date. Pourquoi vient-il pas? Parce que si nous le savions, nous ne l'attendrions pas. Et nous serions à nos affaires. Il faut bien travailler sur la terre. Chacun doit travailler en faisant de ses propres mains ce qui est bon. Nous avons tous quelque chose à faire, c'est sûr. Puis travailler pour le Seigneur. Mais nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Et il y a un passage qui est extrêmement remarquable. Pas même le Fils ne connaît cette heure. On est un peu surpris. Bien sûr que le Seigneur connaît cette heure. Mais dans sa position de dépendance, l'humanité parfaite qu'il a prise, il peut dire que seul le Père connaît cette heure. Mais en fait, évidemment, le Fils, moi et le Père, nous sommes un. Pas même le Fils, nous trouvons cela dans un évangile. Mais en tout cas, la promesse est là, vitement, promptement, il va nous prendre. Oh, quel moment, oh, quel transport, oh, saint transport, allégresse profonde, quand Jésus reviendra.
Un verset. Évangile selon Jean. Chapitre 14. verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Je m'arrêterai. Allongez, tenez de l'air simplement une pensée, suite de tout ce qui nous a été dit par notre frère. Et ce qui, dans tous les temps de l'Église, aura fait languir les saints après le ciel, c'est l'attachement à la personne de Christ. Qui va remplir le ciel, c'est sa personne pendant l'éternité. C'est la demeure de la lumière et de l'amour. Comment est-ce que Paul pouvait dire « Vivre pour moi, c'est Christ, mourir un gain. » Être avec Christ de beaucoup meilleur. Parce que il avait été saisi par le Christ. Il cherchait à le saisir, être rendu conforme à sa mort. Il désirait le connaître lui-même. Jean pouvait dire à deux reprises, après avoir parlé aux petits-enfants et aux jeunes gens, il s'exprime au Père, il leur dit deux fois la même chose. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Tout le ministère de l'Esprit-Saint, aujourd'hui comme quand Jean s'est exprimé, a pour fin la connaissance de celui qui est dès le commencement et qui remplira l'éternité. Mais toute la puissance de l'Esprit, aujourd'hui comme toujours, c'est de révéler les gloires du Christ et de nous attacher à cette personne. Si le Seigneur dit « Je vais vous préparer une place », il faut que nos cœurs répondent à cette joie qu'il nous prépare. Lui-même aura toute la place. C'est lui-même. Il n'y a pas de temple. Dieu et l'agneau sont le temple de la sainte cité. C'est lui qui est devant les yeux des saints. Même Étienne, n'est-ce pas? Comme on l'a rappelé tout à l'heure, au moment de mettre sa vie en témoignage pour Christ, il voit Jésus. Il a les yeux fixés sur lui. C'est ce qui lui donne de la force, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, dans son témoignage, il est comme son Seigneur. À la suite du Seigneur, il peut dire, ne leur impute pas ce péché. Paul pourra le dire aussi, que cela ne leur soit pas imputé. Et puis, selon la position dans laquelle Étienne se trouve, il dit lui-même au Seigneur, reçois mon esprit. Le Seigneur nous accorde de chercher dans les Écritures diligemment. Tout ce qui a été mis pour notre bénédiction et qui se trouve dans une personne et dans une personne seule, Jésus lui-même. Et puis, le Seigneur lui-même nous révèle son Père, l'amour du Père qui remplira l'éternité. Quand une âme va vers Christ, parce que c'est vers lui que l'on va, c'est être avec Christ. On quitte ce qui est souillé, on quitte ce qui est en désordre pour rentrer dans la lumière, dans la demeure de l'amour ineffable, de l'amour inexprimable, pour avoir communion avec le Père et avec le Fils. C'est là la part la plus excellente qui nous est réservée pour l'éternité.
Thank you. Jésus jusqu'à ce jour. Ouvre le ciel, ton séjour,
forme nos cœurs, protège nos combats, au but conduis nos pas. Dans la joie ou les pleurs, rends-nous vainqueurs.